Souvenir FM.
Il est midi.
L'invité du 12-13 de Souvenir FM. Souvenir
FM. Bonjour à toutes et à tous. Merci David pour l'animation musicale. On te retrouve après cette émission comme tous les jours. C'est l'heure de l'invité du 12-13, votre émission préférée, celle qui met en avant vos acteurs locaux, ceux qui vont vivre le territoire. Aujourd'hui, nous recevons Frédéric Chevalier, président de la Malate. Alors, je vais dire ce que c'est parce que les acronymes, c'est une maladie contagieuse. L'association des amis du musée de la Latte. Bonjour, comment allez-vous ?
Bonjour, très bien. Bonjour à tout le monde.
Voilà, on va passer une petite heure ensemble. On va découvrir notre invité, son association, mais bien sûr, on va parler d'hélicoptères, hein. Voilà,
forcément.
Voilà, forcément. Après, c'est bon, c'est un gros insecte qu'on connaît dans les environs, qu'on entend souvent. Il y en a pas mal, pour une bonne raison. On va d'abord écouter le flash info national et international, et on se retrouve ensuite pour la première partie de cette émission. Et c'est parti, on décolle, ça y est, avec Frédéric Chevalier. Donc, première question que je pose toujours à mes invités, c'est une petite bio, une trajectoire personnelle qui raconte une petite partie de leur vie et qui fait qu'ils sont aujourd'hui à ce micro pour parler aux auditeurs, présenter leur structure. Parlez-nous un petit peu de vous, Frédéric, si vous voulez bien.
Eh bien, si je suis aujourd'hui à ce micro, voilà, parce que je suis président de la Malate. Voilà, un ancien de la Latte, forcément, ancien mécanicien de la Latte. Voilà, rentré à l'armée à 17 ans, à l'École nationale technique des sous-officiers d'active à Issoire, donc issu de l'armée de terre, aviation légère de l'armée de terre. Voilà, ensuite parti à Bourges, faire mécanicien à hélicoptère à l'École supérieure d'application du matériel. Ensuite, muté directement en régiment d'hélicoptères de combat, à l'époque dans l'Est, au 3e RHC à Étain, dans la Meuse. Voilà, 9 ans, dont voilà, plein de manœuvres, d'opérations et principalement la guerre du Golfe, dont j'ai participé voilà, pendant 5 ans. Et ensuite, muté à Dax, voilà. Comme chef mécanicien, chef de piste, et voilà, et finir en 1999, j'ai fait 20 ans dans l'armée. Voilà, ensuite j'ai travaillé un peu dans le civil, enfin un peu beaucoup d'ailleurs, 25 ans. Ouais, et oui. Je suis revenu à mes premiers amours, voilà, à la retraite, voilà, pour faire premièrement guide au musée, vice-président, et malheureusement élu le dernier assemblée générale de notre association, parce que malheureusement notre président est décédé. Voilà, notre ami, d'ailleurs, je voulais faire un hommage à Michel Chauvière, notre ancien président, qui est malheureusement décédé d'une longue maladie.
D'accord.
Et donc, j'ai pris sa place, j'aime pas dire ça.
La succession.
La succession, ouais. Voilà, exactement. Plutôt que prévu.
Oui. Très bien, ben merci beaucoup. Oui, alors c'est vrai que là, cette carrière-là dans l'armée, c'est vrai que, comment dire, on a des fois l'image, on pense que les gens, ils y passent toute leur carrière, mais il y a les statuts où c'est 20 ans ou 25 ans, il y a des contrats en fait, c'est un peu spécial.
Non, c'est pas des contrats.
Choix,
enfin, au début, oui, c'est des contrats, on a des contrats, on rentre en école militaire. Moi, par exemple, j'ai signé pour 7 ans, c'est-à-dire c'était 2 ans d'école et 5 ans après de contrat, et après petit à petit, et on arrive à un certain âge, un certain moment de sa carrière où on peut, on va être des deux carrières,
oui.
Ce qu'on appelle sous-officier
c'est
de carrière.
Ça, de carrière
et là, bon, voilà, on fait et on s'en va quand on veut ou quand on a une opportunité. Voilà.
D'accord. Et alors, si c'est pas indiscret, vous avez fait quoi ensuite comme une carrière dans quoi?
Ben, en fait, je suis rentré dans le transport.
D'accord.
Dans le transport routier. J'ai travaillé à Bayonne.
Okay.
Voilà. À l'époque, voilà, mon employeur, il cherchait quelqu'un pour faire de l'informatique embarquée à
d'accord.
l'intérieur des camions.
Okay.
Et je me suis occupé de ça. Et sur la fin de ma carrière, j'ai fini responsable logistique dans une autre société de transport de déchets industriels.
D'accord.
Ce qui n'a absolument rien à voir avec l'aéronautique.
Bon, voilà. C'est toujours intéressant de connaître la trajectoire des gens.
Exactement.
La vie des gens, moi, je trouve ça passionnant parce qu'on a... On est toujours des surprises et découvrir les gens, c'est chouette. Alors, on va découvrir aussi maintenant cette association.
Oui, bien
donc,
sûr.
Un peu son historique et qu'est-ce qu'elle fait.
Eh bien, en fait, cette association, voilà, elle a été créée en 1981. Voilà, parce qu'en fait, elle vient à l'origine de mécaniciens sur la base de Dax qui avait, voilà, il y avait un hangar désaffecté avec des hélicoptères qui eux-mêmes étaient des hélicoptères déclassés.
Oui.
Et ces gens-là qui travaillaient, c'est leur passion, comme on peut rénover une vieille voiture. Ils rénovaient ces vieux hélicoptères à titre, voilà, pendant leur temps libre. Et à force, ben, en fait, ils en ont un, deux. Ben, le premier, c'était une banane qui existait avant sur cette, cette base de Dax.
Les grosses bananes.
Les
là,
grosses bananes, d'ailleurs, que vous pouvez voir à l'intérieur de notre musée. Elle y est toujours, d'ailleurs. Voilà. Et après, il y en a eu un, deux. Et voilà. Et c'est comme ça. Et après, il y a une association qui a été créée parce qu'il y a eu des gens aussi qui sont venus faire de la rénovation ou de la restauration d'hélicoptères. Et voilà. Et ensuite, ce musée était ouvert. En fait, lui, il a été créé après. Le musée a été créé officiellement en 83, c'est-à-dire par une instruction ministérielle où c'est vraiment venu vraiment un musée, le musée de l'hélicoptère. À l'époque, on n'appelait pas ça comme ça, on l'appelait le musée de la latte. Oui. Voilà. Et, mais qui n'était pas encore ouvert au public. Parce qu'il n'y avait pas d'accès extérieur, vraiment. C'était ben, tous les stagiaires y passaient, voilà, des groupes programmés.
Ouais, une conservation du patrimoine.
Exactement,
quoi.
C'était exactement ça. Et en 1992, ben, c'est là où voilà, ça s'est transformé, où on a ouvert au public, donc il y avait avec un accès extérieur, avec un accès, et voilà. Et évidemment, l'association, elle, qui est en soutien du musée, parce qu'en fait, le musée appartient à l'armée. Voilà, les appareils appartiennent à l'armée, tout ce qui est rénové. Et voilà, même si, et même si c'est les gens de l'association qui les rénovent, tous ces hélicoptères, évidemment, appartiennent à l'armée. Mais on a l'association des amis de la latte qui, elle, est en soutien vraiment du musée pour tout ce qui est guide.
Oui, voilà, donc, c'est voilà, ça.
Toutes les guides et tous les restaurateurs. Je pourrais en parler plus tard.
Ah, bien sûr,
ou quand vous voulez.
Oui, bien sûr, on va en parler. Alors, c'est quelque chose d'assez grand. Ça fait 6 000 mètres carrés. De toute façon, bon, c'est des engins.
On a deux grands hangars, en fait. Deux grands... on appelle ça des halls d'exposition. Parce qu'ils sont des anciens hangars aéronautiques. Évidemment. Voilà, 2 x 3000 mètres carrés. Donc, parce qu'au début, on n'avait qu'un seul hangar. Voilà, et depuis quelques années, on a le deuxième. Et on a aussi une grande galerie historique qui fait plus de 300 mètres carrés, qui actuellement est en réfection. Voilà, elle était démontée complètement parce qu'elle datait de la création du musée en 92. Évidemment, depuis, ben, toute l'histoire de la latte a modifié parce que depuis 92, il y a eu beaucoup de choses aussi. Et puis, pour faire vraiment quelque chose de plus moderne aussi, c'est-à-dire maintenant à l'heure actuelle, parce que c'était il y a plus de 30 ans, donc il y a plus de 30 ans, l'exposition n'était pas du tout la même.
Oui, bien sûr, c'était, vous avez changé la miséographie, etc.
Exactement.
C'est normal. Oui, donc, alors il n'y a pas que des hélicoptères dedans, d'ailleurs.
Non, non, ben, on a quelques avions, puisque, ben, alors certes, c'est pour ça que ça s'appelle le musée de la latte et de l'hélicoptère, donc la latte, aviation légère de l'armée de terre.
Voilà.
Alors on pourrait, donc dans l'historique, et ça c'est le rôle des guides, c'est de dire ben, pourquoi une aviation déjà dans l'armée de terre.
Voilà, il y avait faut la confusion d'ailleurs, ça vole donc c'est l'armée de l'air.
Exactement, non. Il faut savoir que dans la latte, l'aviation légère de l'armée de terre, il y a plus d'hélicoptères que dans la marine, l'armée de l'air et la gendarmerie réunies.
Oui, c'est ça.
Voilà, aujourd'hui, il y a plus de 70% des hélicoptères de l'armée française en règle générale qui appartiennent à la latte. Voilà, donc c'est important.
Voilà. Alors pourquoi est-ce que c'est aussi utilisé dans l'armée de terre ? Bon, déjà, c'est un engin qui est capable, l'hélicoptère, de faire du surplace, de monter et de descendre facilement, on va dire, par rapport à un avion.
Évidemment, de pouvoir accéder dans des zones où peut-être, quand on y a des difficultés d'accès, ou en zone hostile, ou vraiment... Voilà, qui permet d'accéder n'importe où, n'importe quand. Voilà, donc ça a permis, on a eu... Bah, alors, comme je disais, ou pour aller chercher des blessés, parce que ce ne sont pas que des hélicoptères de guerre, évidemment. C'est aussi des... D'ailleurs, les premiers hélicoptères qui ont, dans l'armée française, ont été utilisés en Indochine, pendant la guerre d'Indochine, uniquement que pour les évacuations sanitaires. Les premiers en sont servis dans l'armée française.
Oui, c'est vrai que l'hélicoptère, c'est vrai qu'on a tous en tête, bon, on est sur la côte, hein, le secours à la personne aussi, le transport des fois aussi ben, d'organes ou quoi que ce soit. Même il y a un test qui a été fait par drone qui a bien abouti, là, il y a pas longtemps. Bon, voilà, on parlera aussi des drones aussi.
Oui, on peut en parler aussi.
On va en parler aussi.
Oui,
ça sert.
C'est d'actualité. Oui.
Ça sert aussi à livrer, ben, je sais pas, ben, certains refuges en montagne, ben, c'est quasiment impossible de faire autrement.
De faire sans de construire ou des fois d'emmener j'ai vu la dernière fois sur la flèche du Mont Saint-Michel où on a amené justement la statue dessus. Voilà,
Là ça serait difficile
sans hélicoptère, c'est plus possible aujourd'hui.
Oui, voilà. C'est vrai.
Donc voilà, il y a plein de choses qui ne peuvent être qu'avec cet outil là
voilà, c'est ça, c'est un outil vraiment qui a la possibilité vraiment de ponctuellement aller à un endroit très précis, même s'il y a des avions comme je sais pas quoi, le tornado anglais peut-être, l'espèce arrière qui peuvent atterrir ou décoller. Mais ouais. C'est tout ce qu'ils peuvent faire, atterrir ou décoller.
Ils peuvent pas faire grand chose.
Non,
quand
non,
même.
On peut pas faire d'autant. Mais bon, non. Voilà, ça c'est. Et puis, à quel coût en termes de carburant?
Oui, c'est énorme.
On va faire de l'écologie, c'est pas le sujet, mais bon.
Bah, si, quand même.
Un nombre de litres.
Bien sûr.
Je j'imagine pas combien coûte un décollage d'un avion comme ça. Ça doit être monstrueux, en fait. Hein.
Bah, ça leur permet de décoller dans des endroits où justement ils pourraient pas décoller, sur des bases ou sur des navires, parce que en fait, chez les Anglais, il y en a beaucoup dans la marine, sans avoir des porte-avions, sans avoir. Enfin, ils ont des genres de porte-hélicoptères, porte-avions en même temps, et ça leur permet de décoller.
Voilà, c'est ça. L'hélicoptère, il peut décoller sans prendre de l'élan. Il n'a pas besoin de rouler.
N'importe quand.
Ouais, voilà. Bon, de toute façon, hein, vous y connaissez un hélicoptère. Vous êtes un passionné, forcément. Oui, et puis, mécano. Hein.
Ah oui.
Voilà. Et on va faire déjà une première petite pause. Et puis, on va continuer à parler de ce sujet et des hélicoptères. Parce que, voilà, c'est comme les petits garçons. Ils aiment bien les camions-pompiers et tout ça. Mais les hélicoptères, c'est sympa aussi.
C'est sympa.
Allez, à tout de suite. Et nous voilà de retour. Alors, c'est pas souvent qu'on écoute de la grande musique, la musique classique, sur Souvenir FM. La dernière fois, on a écouté Maria Callas, parce qu'on avait reçu le Festival des Abbayes. Là, évidemment, c'était, bon, hein, j'en parlais avec mon invité, je pouvais pas trop louper cette référence quand même à un grand, grand film, hein, La Chevauchée des Valkyries, hein, de ce fameux film Apocalypse Now, hein, forcément. Peut-être que même ça vous a marqué, vous, dans votre choix de carrière, je sais pas.
Alors, non, parce que j'étais déjà rentré à ce moment-là.
Oui, voilà.
Mais bon, voilà.
Bon, mais comme on l'a dit, c'est pas fait que pour faire la guerre.
Mais on l'a tous vu, voilà. Non, exactement. Voilà, là, c'était plus axé sur la guerre. Voilà, il faut savoir que l'hélicoptère, souvent, sauve plus de vies qu'il en tue, je pense.
Ah, mais c'est bien. Ça, c'est bon à entendre. C'est bien de le dire.
Exactement.
Alors, cette association, on en parlait. Donc, quels sont les membres? Alors, il n'y a pas que des militaires dedans. Non. Hein.
Alors, cette association, en fait, elle compte environ aujourd'hui 500 membres, voilà, qui sont disséminés un peu partout en France, hein, parce que, voilà, tous des gens, mais qui sont amoureux des vieilles machines, et puis décidés à préserver et défendre un petit peu ce patrimoine aéronautique, unique en France, déjà, et peut-être même unique en Europe, pour nous. Alors, notre association, elle est constituée... d'un bureau traditionnel d'association, on a un président, un vice-président, un trésorier, un secrétaire, mais surtout on a des bénévoles permanents sur Dax, voilà, parce qu'on a une vingtaine de guides qui assurent quotidiennement des visites guidées, voilà, tous les jours, mais on en parlera aussi après, et puis une dizaine de restaurateurs qui sont là deux après-midi par semaine, pardon, pour enrichir notre... Voilà, qui sont là pour restaurer ces appareils et pour enrichir notre collection d'appareils. Actuellement, ils travaillent à rénover une Alouette 3 de la sécurité civile, voilà, pour la mettre à point d'exposition. Et un avion, ils sont sur deux appareils en ce moment, et un avion Morane-Saunier, où ils sont en train de refaire tout l'entoilage des ailes et la structure.
Et oui, c'est vrai qu'il y a des vieux avions où c'était une toile.
Alors après... cette équipe de restaurateurs, alors moi je veux axer aussi sur ça parce que c'est important, parce qu'en fait on les voit jamais. On voit les guides, d'ailleurs nos guides sont très appréciés par tous les visiteurs. Hein, notre livre d'or peut en témoigner parce qu'on a un livre d'or sur la qualité et la passion de tous nos guides. Mais ces gens-là, on les voit pas dans cette équipe de restaurateurs. Elle est gérée par un ancien chef d'atelier de la latte de la base, Gérard. Et par contre, dans les restaurateurs, on a aussi bien des mécaniciens, des anciens mécaniciens à latte, hélicoptères, que des mécaniciens aussi, des anciens mécaniciens classiques, enfin, mécaniques classiques, si je puis dire, aussi bien civils que militaires. On a des anciens, et ces gens-là se mettent à disposition parce que c'est quand même un travail qui est... Mais c'est tous des passionnés parce que c'est un travail minutieux, parce qu'ils démontent vraiment les hélicoptères de A à Z. Ils les font vraiment, ils démontent jusqu'au rivet. Ensuite, ils répertorient toutes ces pièces, à tout démonter, tout gratter, tout, et à remonter. On ne reconnaît plus l'hélicoptère. Je vous promets.
Est-ce que l'objectif de la restauration, est-ce que c'est de le rendre toujours en état d'être capable de voler, ou juste une restauration esthétique?
Non, c'est de la restauration esthétique, non, parce qu'après on est sur des hélicoptères qui sont beaucoup plus vieux, non, on ne pourrait pas les refaire voler là.
Vous n'auriez pas le droit, de toute façon, j'imagine.
Déjà, on n'aurait pas le droit, et puis après il faudrait des pièces homologuées, vous savez, c'est toute la mécanique aéronautique, c'est très il faut avoir des pièces, il faut que tout soit répertorié, et qu'on ne peut pas mettre n'importe quelle pièce sur n'importe quel hélico, même si c'est la bonne pièce.
Oui, ça c'est sûr que là...
Voilà, non, pas pour voler, hein. vraiment pour de la restauration.
Mais il y en a esthétique. Qui volent quand même ou pas? Vous avez des choses qui volent ou pas? Ou non, que non. Du statique?
Non, on n'a que du statique. D'accord, chez nous au okay. Musée.
Bon, après, des
même s'il y a beaucoup d'hélicoptères que nous avons en statique qui sont arrivés en vol.
Oui, et oui.
Les hélicoptères, on a le plus gros hélicoptère qu'on a dans l'armée, qu'on ait eu dans l'armée française, le Super Frelon, qui est arrivé vraiment en vol,
oui.
Qui a posé devant le hangar et qu'on a rentré. C'était là. Voilà. Oui. Voilà, il y en a certains qui sont arrivés en vol. Voilà, ben qui n'ont pas été restaurés.
Oui,
voilà.
Forcément. Oui, oui. Même la banane, ça prend de la place quand même, hein, j'imagine.
Ah oui, la banane, ça prend de la place. Le Super Frelon, ça prend de la place. Voilà.
Alors, Super Frelon, je rebondis parce que lundi, on avait une émission, c'était Beast for Life. Donc, leur credo, c'est de combattre le frelon. Voilà.
Ah, oui.
Alors, je rebondis sur ça, c'est qu'en fait, les hélicoptères, ils ont... J'ai l'impression, toujours des noms d'animaux.
Exactement.
Hein, donc alors, il y a l'alouette, la gazelle, il y a pas mal de félins aussi. Hein,
oui, bien sûr.
Cougar, puma, caracal, lynx, et aussi on a le symbole un peu landais, l'écureuil.
Exactement.
Voilà, donc alors apparemment c'est toujours des animaux, peut-être, je ne sais pas pour quelle raison d'ailleurs.
Parce que ça a été choisi comme ça, vous savez, après c'est comme tout... Voilà. Mais bon, les hélicos américains, c'est des tribus indiennes.
Hein. Oui.
L'Apache,
oui,
c'est vrai, l'Iroquois, le Black Hawk, c'est voilà. Ouais, chacun.
Le missile aussi, Tomahawk.
Voilà, chacun, c'est. Ouais. Voilà, chacun. C'est...
Son style, quoi.
Ah, c'est comme les moteurs d'hélico, hein, oui. Qui sont toujours des noms de pics ou de lacs des Pyrénées.
Ouais, alors, il y a le Maquila.
Ouais, alors bon, lui, c'est pas.
Le Maquila, là, c'est le bâton de marche basque.
Exactement, et c'est tout. Puisque les deux usines de fabrication de moteurs sont à Tarnos et à Bordes.
Voilà.
Voilà, exactement.
C'est vrai que dans le coin, on peut pas ne pas parler de... Alors, bon, je dis toujours Turbomeca, parce que j'ai connu depuis longtemps Turbomeca, j'ai connu le concepteur du Maquila, justement, voilà.
Tout à fait.
Et c'est vrai que dans le coin, au niveau industrie, etc.,
aéronautique,
de pointe,
c'est
quand même quelque chose d'important. Hein, parce qu'ici, on a Tarnos, le siège est à bord à côté de Pau.
Exactement.
Et ils sont implantés dans le monde entier. Il y a des ingénieurs qui viennent de tous les pays. Voilà. Et donc, du coup, ils sont toujours dans le...
Toujours dans le coin.
Le développement
et
le maintien de...
Ouais. Et après, tout ce qui est fabrication d'hélicoptères. Alors, avant, on appelait ça l'aérospatiale, un peu comme Turbomeca, et aujourd'hui, qui s'appelle Airbus Hélicoptère.
Voilà,
bon, c'est la même chose, qui, eux, sont à Marignane, à côté de Marseille.
Oui, voilà. Maintenant, c'est Safran, Turbomeca.
Oui, exactement, Safran.
Ouais. Alors, au niveau des pièces, justement, les pièces d'hélicoptères, même si vous en cherchez pour la restauration, qui c'est qui les fournit? Est-ce qu'il y a un stock de...
Alors, nous avons, évidemment, ici, au musée, on a non seulement nos deux hangars d'exposition, nos deux halls d'exposition, mais on a aussi deux autres hangars où, justement, toutes les pièces, déjà, il faut savoir qu'on a 30 hélicoptères exposés. Sur les 70 que nous possédons au musée, tous ne sont pas exposés.
Oui.
Et donc, à chaque saison, puisque ce qu'on n'a pas dit, c'est que le musée était ouvert du 1er mars, je vais y arriver, jusqu'au 30 novembre.
Oui, c'est ça, voilà.
Voilà. Et que pendant cette période, pendant la période de fermeture, évidemment, il y a des nouveaux hélicoptères qui sont mis en exposition, c'est-à-dire on change régulièrement.
Ben oui, comme ça, les gens qui sont déjà venus, vous dites, tiens, je vais refaire un tour.
Il va y en avoir d'autres.
Ce sont dans un musée, il y a la collection permanente.
Exactement. Alors nous, on change. Alors, il y en a certains qui restent, parce que les plus gros, c'est compliqué. Banane, vous verrez toujours la banane.
On serait déçu de ne pas les voir en même temps.
Et Super Frelon en même temps. Et après, les autres, on essaye de changer, de modifier. Et donc, à côté de ça, donc forcément, on a des hangars à côté où il y a toujours ces hélicoptères en rab, si on peut dire ça comme ça. On a aussi des hangars avec toutes les pièces. Et là, c'est le gros travail de l'équipe du musée, parce que pas l'association, vraiment les militaires qui sont affectés au musée, qui, eux, nous ont fait, ces dernières années, les années récentes, vraiment l'inventaire de tout ce qu'il y avait, parce que ça n'avait pas été fait avant. Donc, voilà. Et donc, pouvoir savoir exactement quelles pièces on a. Et vous savez qu'on a des racks et des racks de matériel et d'anciens, parce que dès que ça sortait, dès que l'hélicoptère n'était plus en service, dans certaines unités, ils nous envoyaient tout le rap de pièces qui ne servaient plus. Qui n'était peut-être pas monté sur des vieux hélicoptères maintenant pour les faire voler, mais qui servait pour justement la restauration.
Alors, ça va être le moment de faire une deuxième pause. Et en revenant, on va parler un petit peu, on parlait des pièces, mais on va parler un petit peu de la naissance de l'aérospatiale, on va dire, française.
Bien sûr.
C'est l'occasion de rappeler qu'il y a un film qui est sur la fille de Monsieur De Gaulle, qui est en ce moment, et il y a un lien très direct entre les deux. Voilà. Allez, à tout de suite.
À tout de suite.
Et voilà, c'est reparti. On a écouté encore un petit peu de musique, hein. Un petit Pink Floyd, hein, qui parle un petit peu de la guerre. Bon, voilà. Et les Doors, encore, voilà, désolé du cliché cinématographique, mais bon.
Je vous ai dit qu'un hélicoptère, ça a sauvé plus que ça a tué de personnes.
C'est vrai. Voilà. On va parler donc. Oui, alors, donc, je disais, c'est vrai qu'à une époque, De Gaulle, il a dit stop parce que on était comment dire, à la merci du bon vouloir des Américains. Il dit, bah, vous n'êtes pas d'accord avec nous, on parlait des pièces tout à l'heure, on vous coupe le robinet des pièces et vous pouvez plus voler. Ouais. Et donc là, c'est là qu'il a dit De Gaulle, bon ben, il faut qu'on ait notre aviation à nous, avec nos appareils à nous.
Exactement. Voilà. Et c'était le début de l'aérospatiale, Turbomeca, et de toutes ces entreprises-là. Voilà, ce qui n'était pas plus mal. C'est pour ça qu'on est passé d'hélicoptères. Moi, je parle que d'hélicoptères, hein, parce que le reste.
Bien sûr.
Et voilà, on est passé d'hélicoptères, d'équipements hélicoptères américains, comme un Bell 47, ou la Banane à l'époque, ou d'autres, Sikorsky, voilà, toutes ces marques. Et voilà, et on est passé vraiment à s'équiper avec du matériel français, dont là, une des premières aussi. Enfin, je veux dire l'Alouette 2, Cocorico, puisque c'était à l'époque, c'était que des hélicoptères avec des turbines, avec des moteurs à piston.
Oui,
et
oui.
Et l'Alouette 2 était le premier hélicoptère à grande échelle, peut-être, qui est sorti au niveau industriel, avec une turbine. Et aujourd'hui, pratiquement tous les hélicoptères sont avec des turbines.
Oui. Évidemment. Alors justement, alors vous êtes mécano, vous allez pouvoir nous dire un petit peu, parce qu'un hélicoptère, on a tous en tête la forme approximative d'un hélicoptère, même si la Banane, elle a un peu une forme un peu spéciale, voilà. Il n'est pas très symétrique, l'hélicoptère, de profil, donc en gros, il y a deux trucs qui tournent, voilà. Il y a la queue, et il y a le rotor principal. Donc la queue, elle sert surtout à empêcher l'hélicoptère de tourner sur lui-même.
Exactement, et puis ça nous sert à nous diriger. Que j'en parlais, c'était à nous diriger quand nous sommes au sol. En vol, il ne sert pas, voilà, on va tourner à droite et à gauche avec le manche, mais surtout c'est quand on est en stationnaire qui nous permet, donc déjà ça permet de contrer le couple de remarchement, c'est-à-dire contrer justement parce qu'une fois en l'air, qu'est-ce qui empêcherait l'hélico de tourner à l'inverse du rotor principal. Donc exercer une force à l'arrière pour tout ça. Et puis après, en augmentant l'incidence de ce rotor arrière, des pales à ce rotor arrière, de contrer ce couple de remarchement pour tourner à gauche ou tourner à droite, voilà, pour vraiment manœuvrer quand nous sommes au sol, voilà, en stationnaire ou quand on est circuler sur le taxiway pour arriver à l'endroit où on est.
Voilà, oui. Alors, c'est vrai qu'un hélicoptère, en fait, c'est comme si c'était un objet qui se visse dans l'air. Hein.
Exactement.
Hein, il tourne en faisant comme un pas de vis. Hein. D'ailleurs, bon, voilà, on a parlé aux antennes, voilà, ce fameux appareil inventé par Léonard de Vinci.
Oui, qui est l'origine.
Vraiment l'idée d'origine, hein, c'est ça. Hein.
Ben, on en parle dans la galerie historique, où on parle justement de l'invention. On a ce dessin vraiment. Voilà. Après, ça avait été étudié, et voilà, il avait mis des formules, il avait mis tout ça. Bon, ça n'a jamais volé, à l'époque, il n'arrivait pas à le faire tourner assez vite avec les moyens. Voilà. Et puis, de toute façon, vu que c'était fait de toile et de ficelle, même si la technique et l'étude avaient été bonnes.
Très bien. Alors, comme on parlait de Léonard de Vinci, on va parler de noms célèbres aussi, parce que hein, dans un musée, il y a votre musée, vous n'avez pas que des aéronefs, vous avez aussi de beaucoup de documentation aussi. On en parlera aussi, la documentation. Et aussi, il y a des noms célèbres, dont, et voilà, encore une fois, on parle toujours des hommes et tout, mais les femmes aussi, elles ont fait des choses dans l'aéronautique et dans l'hélicoptère aussi.
Oui. Exactement. Alors, on a dans un de nos premiers halls, on a un grand triptyque vraiment énorme sur tout un grand mur, voilà, sur une grande dame qui s'appelle Valérie André, qui a été la première femme pilote sur hélicoptère en Europe, qui a été la première générale dans l'armée française, voilà, qui était pilote hélicoptère et qui était médecin chirurgien, vous voyez.
Ah ben, dis donc.
Vraiment des spécialités, généralement médecin chirurgien ou pilote. Professionnellement, on n'est jamais les deux en même temps.
Ouais, bah, elle était costaud.
À l'origine, elle était médecin. Elle est partie médecin. Voilà. Je peux vous raconter l'histoire puisque ça fait partie.
Voilà. C'est parti, votre job.
C'était une dame qui, à l'origine, était une médecin civil. Passionnée d'aéronautique, avait passé, voilà, et qui était, voilà, et il y avait des sergents recruteurs, on va dire, qui étaient venus à la sortie parce que c'était pendant la guerre d'Indochine. Ils avaient besoin de médecins chirurgiens. Et elle est partie là-bas. Et voilà, vu qu'elle avait déjà quelques bases d'aéronautique, elle a été passée déjà quelques brevets de pilote avant. Elle a pu faire ça et elle a pu faire dans la première, une des premières escadrilles hélicoptères, avec ses premiers hélicoptères qui sont arrivés en Indochine, comme je vous dis, qui n'ont servi que pour des évacuations sanitaires.
Et, oui, oui.
Et voilà, et donc elle a fait déjà ce métier, aller chercher les gens, puisqu'on avait besoin de ces appareils-là, ces hélicoptères, pour aller chercher les blessés au plus près du front, enfin du moins dans la jungle et au plus près.
Oui, parce que donc c'est l'hélicoptère qui est l'outil idéal pour
voilà,
ça.
Voilà, qui était d'ailleurs, on a cet hélicoptère exposé au musée, son hélicoptère, puisqu'elle est venue, elle avait. Voilà, elle est venue dans le musée, elle a pu le confirmer avec son carnet de vol.
Oui, mais elle est toujours vivante.
Non, alors malheureusement, cette dame était née en 1922.
Ah oui.
Quand on a fait ce triptyque sur elle, là ici, elle est 2022, elle était toujours vivante.
D'accord.
Elle est décédée en janvier 2025.
D'accord.
Elle avait 103 ans.
Ah, ouf.
Voilà.
Mais c'est vraiment une. Bon, je veux dire, bon, vous n'allez pas me dire le contraire, parce que c'est une femme d'exception, quand même.
Une femme d'exception, comme je vous ai dit. En plus, une des femmes les plus décorées de l'armée française, parce que non seulement on parlait d'Indochine, mais en plus, ensuite, elle était en Algérie, elle a fait plein de missions.
Oui, oui.
Et je vous dis, en Indochine, le but, c'était d'amener les blessés, de les emmener vers les hôpitaux militaires, un petit peu, parce qu'il y avait des paniers sur le côté où les blessés étaient mis vraiment pratiquement à l'air libre, et où les emmener, voilà, pour les emmener au plus vite.
Oui,
c'était
urgence,
un petit peu comme le SAMU d'aujourd'hui, mais en Indochine et en hélicoptère.
Oui, ouais, c'est vrai. Bon, y a toujours des hélicoptères qui servent beaucoup à ça, en montagne,
beaucoup,
à la mer,
ici aussi.
Beaucoup. Oui, c'est vrai. Donc, comme vous disiez, on retiendra le côté positif. Hein.
Toujours.
Oui. j'ai compris. Oui. Et oui, bah, c'est vraiment intéressant. Et donc, il y a une école aussi. Une école dans le coin, quand même.
Alors, c'est intéressant d'en parler, justement. Et oui, on a le Halat ici, évidemment. Il faut savoir qu'Adax, c'est pour vos auditeurs, parce que je m'aperçois que quand on fait les visites, on a évidemment des gens, des curistes, des vacanciers, mais on a aussi beaucoup de locaux, évidemment, et qui ne savent pas forcément ce qui se passe. Alors, ils voient ces hélicoptères rouges et blancs qui circulent dans le ciel, mais pas forcément, ils savent qu'il y a une école. Il faut savoir qu'Adax, nous formons tous les pilotes... Enfin, nous, à Dax, même si j'en fais plus partie, j'en ai fait partie à un moment donné. Voilà, le Halat, il forme tous les pilotes hélicoptères de l'armée française.
Oui.
C'est-à-dire les pilotes de l'Halat, comme je vous ai dit, mais aussi tous les pilotes de l'armée de l'air, tous les pilotes de la marine, tous les pilotes de la gendarmerie, voire même tous les pilotes de l'armée belge, hélicoptères, bien sûr, sont formés à Dax.
Oui.
Voilà, une école de... Voilà, sur un hélicoptère unique... que vous voyez rouge et blanc, ils ont 13 mois de formation, voilà, et ils apprennent à piloter nos instruments, la législation, enfin, tout ce qui peut, voilà. Et ensuite, au bout de ces formations, ils sortent d'ici pilotes, et après, ils partent vers leurs écoles de formation respectives.
D'accord.
Pour les gens de l'Halat, c'est au Luc en Provence, où ils apprennent à piloter un Tigre, un Puma, après sur un hélicoptère, parce que, en fait, chaque armée, après, ça a ses missions et son hélicoptère particulier. Donc voilà. Mais ils apprennent tous, ils passent tous par là.
Ouais. Ah bah c'est bien de le dire, hein, parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte.
Exactement.
Comment dire que le côté un peu unique de cet endroit. Donc, c'est vraiment un endroit important.
C'est important.
Voilà.
Tous les pilotes, si vous voyez un hélicoptère dans le ciel, voilà, il y a 9 chances sur 10, peut-être même, et plus ça va aller, plus qu'ils soient passés par Dax.
Bon, voilà, ben c'est un petit cocorico local.
Cocorico,
hein. Ouais, c'est bien. Ensuite, donc, vous étiez mécanicien. Est-ce que vous avez une spécialité? Enfin, je ne sais pas, parce qu'il y a tellement de parties.
Oui, c'est vrai. Alors, sur hélicoptère, il y a plusieurs mécaniciens. Il y a les mécaniciens équipement de bord, les MEBA, et les mécaniciens cellules moteurs, c'est-à-dire tout le reste de l'hélicoptère.
Oui.
Voilà. Aujourd'hui, il y a des mécaniciens armement, c'est un peu plus particulier sur le Tigre. Moi, je vous parlais de l'époque. Donc voilà, donc on n'y avait que deux types pratiquement de mécaniciens. Et après, dans les mécaniciens, en fonction de votre affectation, vous pouvez être muté en atelier ou être muté directement dans des escadrilles volantes.
Oui.
Moi, j'ai toujours été dans des escadrilles volantes. C'est pour ça que j'ai fini avec plus de 2000 heures de vol. Pour un mécanicien qui n'est pas un mécanicien. Ah oui, parce qu'il y a une troisième type de mécanicien. C'est les mecs naves, les mécaniciens navigants sur les gros hélicoptères. Où ces hélicoptères ne décollent jamais sans un mécanicien à bord. C'est eux qui mettent en route les moteurs. C'est eux qui font... Voilà, ils sont chefs de soute en même temps. Voilà. Donc voilà. Mais sur...
D'accord.
Voilà.
Oui, donc ils participent vraiment aux missions.
Voilà, ils partent aux missions et là, il n'y a pas le choix.
Oui.
C'est un hélicoptère, un Puma ou aujourd'hui des Caïmans n'écoleront jamais sans mécanicien.
Et oui, puis ça demande une expertise aussi. Voilà, c'est comme par exemple, je ne sais pas, certains chauffeurs, peut-être, vous avez été aussi dans le transport, certains chauffeurs de poids lourds, ils ont intérêt à s'y connaître en mécanique et pas juste en conduite. Hein.
Évidemment.
Oui, parce que ça fait partie. Déjà, ça permet de s'en sortir quand il y a un problème. Et ensuite, ça fait la compréhension de l'entièreté de l'objet qu'on pilote donne de l'importance. importance aussi.
De toute façon, dans la formation du pilote, ils ont de la mécanique des vols, ils ont de la mécanique. Oui. Voilà, parce qu'évidemment, dans certains,
le physique,
certains
hélicoptères
n'ont,
tout
pas,
ça,
n'ont pas de mécanicien ouais. en permanence. Quand ils partent en mission, des fois, ils peuvent partir tout seuls. Ça leur arrive, donc... Voilà, d'avoir quand même des bases de mécanique, au moins pour l'entretien.
Oui, c'est normal.
Voilà, et pour, le, pour tout ce qui est visite avant vol. Voilà.
Ouais, ouais. Alors, aussi, j'ai vu que vous aviez aussi, donc on en a parlé un petit peu, vous avez des drones.
Oui.
Alors, j'aimerais avoir votre opinion sur les drones. Alors, est-ce que c'est un ennemi que vous guettez, qui va être un remplaçant d'hélicoptère? Comment est-ce que vous le percevez, vous?
Alors, non, je pense pas que... Enfin, bon, après, c'est que mon opinion. Bon, alors, après, je suis pas un grand spécialiste des drones. Il y a des drones au musée, en effet, parce qu'on en a mis, parce que nous en avions, mais c'était les premiers drones que nous avions eus dans l'armée française. Et c'est surtout que c'était pratiquement que des drones d'observation.
Oui.
Parce qu'après, les drones servent à l'observation. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que la nouvelle armée française, ou la nouvelle ALAT aussi, il y a des unités avec des drones, avec des pilotes de drones à l'intérieur des hélicoptères, et qui nous servent, justement, à faire de la reconnaissance au plus près parce qu'il y a quand même...
Donc l'hélicoptère pourrait envoyer un drone
avec un
opérateur, il voit qu'un écran...
Avec un pilote de drone derrière, qui est derrière. Donc nos escadrilles de reconnaissance, dans certaines, voilà, c'est en train d'être étudié, c'est en train de se faire. Et voilà, pour aller au plus près, parce que voilà, là, c'est vraiment des drones de surveillance.
Oui, d'accord.
Voilà, sur, mais à courte distance, en fait.
Oui.
Pas sur des observations, comme on peut faire sur des drones. Il y a des drones longue distance, des drones...
Oui, bien sûr,
Voilà.
Après, ça sert aussi, on a parlé des hélicoptères, les pompiers. Les pompiers et les drones, on a reçu les pompiers de l'Axe, et ils utilisent l'hélicoptère et les drones aussi et la vision infrarouge qui sert beaucoup. Quand il y a une personne sur le terrain, elle peut pas voir qu'à 3 mètres d'elle il y a un point chaud, il s'en rend pas compte, mais seulement le pilote lui dit tiens, tu marches 3 pas vers le nord là,
et pour les pompiers ça leur permet d'arroser à certains endroits à côté d'eux.
Et oui, ça rend
service. Il y a plein de choses. Aujourd'hui, c'est un nouvel outil. Voilà, s'il faut s'en servir, je pense pas qu'il va remplacer l'hélicoptère parce que c'est différent. C'est après, il y aura des missions un peu différentes. Dans certains cas, peut-être, dans le cadre de la reconnaissance. Après, voilà.
Après, la technologie évolue. Alors, je vois qu'il y a des. On commence à mettre au point des hélicoptères électriques ou hybrides. Alors, le rapport poids-puissance avec l'électrique, c'est compliqué parce que les batteries pèsent tellement lourd.
Peut-être que ça viendra dans l'avenir.
Ouais,
on
ne
sait pas comment ça va évoluer. Mais aujourd'hui, bon, l'hélicoptère électrique, voilà. Enfin, nous, je veux dire, à titre militaire, peut-être à titre civil, pour faire certaines choses sur des courtes distances, peut-être.
Après, les petits drones qu'on utilise, nous, les drones classiques, on va dire, là, par contre, ça marche pas comme, tout à fait comme un hélicoptère, puisqu'il n'y a pas de rotor de queue. Hein.
Non,
là,
ben parce qu'il y a quatre rotors.
Voilà, c'est ça,
il y a quatre rotors. Type, vous savez, on parlait de la banane tout à l'heure, des birotors. Hein, les birotors n'ont pas de rotor en découpe, parce que, en fait, vous avez un rotor qui tourne dans un sens, l'autre qui tourne dans l'autre, et tout s'annule, en fait, ce qu'on appelle le couple de renversement. Ben voilà, tout s'annule, donc... Voilà. Donc, en fait, ils ont ce système-là. Il n'y a pas qu'un seul rotor sur un drone.
Ah non, il y en a quatre.
Il y en a quatre. Et les uns tournent dans un sens, les autres tournent dans l'autre. Ça permet d'annuler toute cette force.
Voilà. Très bien. Eh bien, on va déjà faire notre dernière pause. On écoute encore un petit peu de musique et on atteindra la dernière partie de cette émission. Alors, on est de retour avec Frédéric Chevalier. Donc, la dernière chanson, La Belle Vie, c'était quand même pour m'excuser auprès de mon invité d'avoir mis un petit peu des chansons un peu guerrières et pour rappeler, comme vous avez dit, que l'hélicoptère a probablement sauvé plus de vies qu'il n'en a coûté.
Voilà.
Donc c'est pour revenir sur ça un petit peu. Voilà. Qu'on soit pas fâché.
Non, non.
Voilà.
Il n'y a pas de mal.
Alors, qu'est-ce qui se passe chez vous? Il y a des manifestations, des événements parfois.
Oui, donc en fait, le musée organise tous les ans, mais enfin dans le cadre de manifestations nationales, hein, comme la journée des musées, enfin la nuit des musées, pardon, excusez-moi.
Musées,
voilà, et c'était les journées du patrimoine.
Bien
où notre musée est ouvert. Et après, ce que l'on fait tous les ans, là par contre, ce n'est que à Dax. Que à notre musée, on fait Halloween. Alors vous allez me dire, c'est un petit peu américain cette affaire-là.
Tout à fait.
Mais en fait, notre musée est complètement transformé par l'équipe du musée, vraiment. Et plus, voilà, ça fait quelques années que nous le faisons, enfin 3 ans, je crois. Et on s'aperçoit que plus ça va, plus on a du monde. Hein. On se retrouve à plus de 1000 personnes. Bon, voilà, c'est vraiment énorme.
C'est une déco, aménagement notre, Halloween.
Voilà, oui.
D'accord.
Même moi qui suis guide, le deuxième hangar qui est, vous avez un premier hangar, c'est soft, voilà, c'est des, ça fait pas peur. Dans le deuxième hangar, je ne reconnais plus c'est pas les miens, mais je reconnais plus les hélicoptères tellement c'est transformé.
Ah ouais, d'accord.
Vraiment, c'est vraiment exceptionnel.
Ah
vraiment,
ouais.
si vous avez, enfin je vais pas dire à venir qu'une fois, il faut venir plusieurs fois pour voir au moins les hélicoptères et les reconnaître. Oui. Mais il faut venir vraiment pour ces journées à Halloween, d'accord, parce que c'est vraiment exceptionnel. Et je vous dis, tous les gens reviennent tellement ils ont été emballés.
Ah ouais, bon voilà. D'accord, mais c'est vrai, c'est une spécificité de votre bien musée, sûr. C'est bien de le dire.
Voilà.
Alors il y a une autre spécificité à ce musée, c'est, vous en êtes assez fier, c'est sa fréquentation.
Ah oui, ben écoutez, alors on se dit, on est content. Alors après, il n'y en a pas beaucoup non plus de musées, mais voilà, on dit qu'on est le musée le plus fréquenté de Dax et de ses environs. Voilà, parce qu'on a une fréquentation accrue depuis plus de 10 ans, puisque voilà, on est passé de 7 000, à peu près environ 7 000 en 2016, voilà, 2018 8 000, 2020, bon. 1877, mais ça, c'est autre chose.
Oui.
C'était malheureusement le Covid. 2020, mais après, on est monté 2022, enfin, je vous dis tous les deux ans, 12 000. En 2023, 15 000. En 2024, 17 000. Et en 2025, 18 000.
Oui.
Vous voyez, on est en permanence. Voilà, parce que bon, le succès de nos appareils, de nos collections, du travail de nos guides aussi, parce que je pense que c'est ça. Halloween aussi qui nous amène aussi de la publicité.
Et, oui, oui.
Et en fait, tous les gens qui viennent après reviennent, en fait, ils viennent pour des éléments, pour des manifestations comme ça, et après ils reviennent vraiment après. Donc je pense que voilà. Et on a aussi beaucoup de locaux. Alors aussi, je pense aussi, le fait peut-être qu'on ouvre le samedi, parce que quand j'ai commencé guide, il n'y a pas si longtemps que ça, voilà, on était ouvert du lundi au vendredi. Et moi, j'avais beaucoup de gens du coin qui me disaient, mais oui, mais ça me fait rire, mais ouais, mais moi, je veux bien visiter, mais on travaille la semaine.
Et oui, si on fait une sortie avec les enfants,
tout voilà,
ça,
exactement.
C'est bien, ouais. Et oui, bien sûr.
Donc maintenant, ça y est, c'est l'ancien président qui avait pris cette initiative,
oui, oui.
Une très bonne initiative. Et voilà, pour moi, c'était d'ouvrir du mardi au samedi. Et au moins, le samedi, on a beaucoup de familles, les locaux viennent plus le samedi, ce qui est très bien.
Oui, très bien. Ouais. Bon, mais c'est bien, parce que c'est vrai qu'on parle souvent du musée de Bordat, qu'on a reçu ici d'ailleurs.
Hein,
mais en fin de compte, voilà, il n'y a pas que ça. Voilà. Après, moi, je suis content d'avoir découvert ça. Bon, c'est vrai que j'ai une petite histoire personnelle, un lien avec l'aéronautique. Mon papa, mon service militaire que j'ai fait aussi, voilà, dans l'armée de l'air en tout cas, pas d'hélicoptère, mais voilà. Et donc, c'est vrai que c'est sympa que cet endroit existe. Parce que... Et après, moi, je peux vous dire par expérience que les gens sont très intéressés par tout ce qui est patrimoine. Alors, ça peut être le patrimoine, ça peut être les très vieilles pierres, mais aussi ce genre de choses. Ils sont vraiment intéressés, nos auditeurs sont vraiment intéressés par ce qui se passe à côté de chez eux. On peut être touriste dans sa ville ou dans son département,
ça
c'est génial
ça
en fait.
Surtout que, comme je dis, on a des hélicoptères militaires, mais on a aussi des hélicoptères civils. On a de tout chez nous. Et en plus, quand la liaison entre les deux hangars, on est à l'extérieur, et ça nous permet de voir aussi des hélicos qui décollent en permanence.
Et voilà, oui, c'est ça.
Alors... Donc on permet de voir des hélicos qui décollent, des hélicos au sol, de voir un petit peu tout.
Alors je sais pas si l'école fait des portes ouvertes ou quoi que ce soit. Moi, je sais que le 5e RHC à Pau fait des portes ouvertes, ou en faisait en tout cas, moi, quand j'étais à Pau.
Oui,
et là, c'était l'occasion vraiment de voir voler un tigre. Et quand on voit un tigre en face, en stationnaire, et qu'on voit le tireur qui tourne la tête, le canon suit le casque, c'est assez impressionnant.
C'est des démonstrations aériennes qui sont intéressantes, qu'en dehors des portes ouvertes, c'est surtout les démonstrations aériennes qui sont faites. Et ça, c'est vraiment exceptionnel. Malheureusement, on ne fait plus de portes ouvertes sur la base de Dax, voilà, pour des raisons de sécurité.
Oui, c'est sûr, il y a des
contraintes. Pour plein de raisons aujourd'hui. Normal, de contraintes et voilà, de sécurité.
Bien sûr. Alors, pour rappel, en tout cas, la période d'été dans laquelle on est en ce moment, hein, juillet et août, du lundi au samedi, de 14h15 à 17h45.
Exactement.
Voilà.
Et à partir de 14h30, vous avez un guide conférencier, voilà, bénévole, de l'association de la Hamalate, qui fait une visite guidée, qui dure à peu près 1h30, voire même des fois plus en fonction des questions posées.
Mais oui, bien
et
sûr.
Et qui expliquer l'histoire de l'hélicoptère de la Hamalate, et puis plein d'anecdotes et de particularités sur les différents appareils.
Bien sûr.
Que nous pouvons voir au musée.
Ouais, sans guide, ce serait un peu tristouné, parce qu'on verrait juste un hélicoptère. Tiens, c'est quoi?
Chaque hélicoptère, il y a une plaque.
Oui, bien sûr.
Et avec possibilité, un QR code de pouvoir voir l'explication. Mais c'est pas aussi bien que d'avoir, puisque chaque guide a une explication, chaque guide en plus a une histoire, a une anecdote. Et voilà, c'est leur passion, il faut partager leur passion.
Bah, évidemment, s'ils sont comme vous, qui sont de la partie en plus, vous qui avez été mécano sur l'hélicoptère et tout.
On a des mécanos et on a des pilotes, évidemment, sur tout ça.
Bien sûr. Eh bien, merci beaucoup d'être venu.
Merci beaucoup de m'avoir accueilli.
Voilà. Et j'espère qu'il y a de certains auditeurs qui n'ont pas encore eu l'occasion de mettre...
Qui viennent nous voir avec plaisir. Ah oui, non, on n'a pas précisé, l'entrée du musée est gratuite.
C'est vrai, on ne l'a pas dit, c'est
l'entrée,
important.
C'est important, l'entrée du musée est gratuite. Ah oui. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous voir.
C'est un coup à faire un petit tour un samedi avec les enfants, par exemple.
Exactement, ou le mercredi, si on ne travaille pas.
Très bien. Voilà. Eh bien, merci beaucoup.
Merci.
Et puis, bon vent.
Allez, merci beaucoup.
Au revoir.
Merci.